Bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue sur Audio Radio sur la fréquence toujours 91.3 ou via notre site www.audioradio.fr et donc bienvenue pour notre émission mensuelle Les 4 médias, je le rappelle, une émission qui est réalisée en partenariat avec l'Écho des Collines représentée ce soir par Coraline Bertrand. Bonsoir à vous Coraline.
Bonsoir.
Et acquis.fr, représenté par Johan Dénéchaud. Bonsoir à toi, Johan.
Bonsoir, Sandrine. Bonsoir à tous.
Alors, ce soir, on ne pouvait pas commencer cette émission sans avoir une pensée à celui qui est donc à l'initiative de ce beau partenariat. Il s'agit donc de Joël Aubert, un journaliste humaniste, ancien rédacteur en chef de Sud-Ouest et donc fondateur d'acquis.fr. Johan, je vous laisse dire un petit mot. Hein. Il nous a quittés il y a quelques semaines. C'était donc le 27 février exactement. Acquis.fr continue. On va continuer ce partenariat pour lui rendre hommage et je vous laisse dire un petit mot.
On continue de travailler, ouais. Et puis ce partenariat, je sais qu'il y tenait de par son amitié. Enfin, il était très proche de radio, il y tenait de par son amitié au regretté Jacques Brunet, qui était aussi très lié à la radio et à l'Écho des Collines. Donc on continue à travailler, quoi qu'il arrive.
Une pensée aussi, effectivement, pour Jacques Brunet, qui est un ancien président d'Audio Radio, qui a été aussi à l'Écho des Collines. Tous ces liens font qu'on est là, tous les trois encore, ce soir, pour animer ce 4 médias du mois de mars 2021. Toute l'équipe d'Audio Radio, donc, bien sûr, se joint à moi pour lui rendre hommage et saluer au mieux sa mémoire. Et comme je disais, on va continuer cette émission 4 médias, continuer de traiter l'actualité locale avec toujours aussi une volonté de rendre visibles les actions portées par des citoyens, des associations qui souhaitent faire avancer notre société. Alors c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est une phrase, si vous vous souvenez, prononcée par le président de la République Emmanuel Macron, destinée à la jeunesse, une phrase qui a été prononcée en amont du second confinement. C'est toujours dur, il me semble, en 2021, puisque si cette crise est difficile pour l'ensemble de la population, les conséquences sur les jeunes semblent être encore plus. Les jeunes semblent être encore plus exposés à ces conséquences. Enseignement à distance, perte de petits boulots, précarité alimentaire, décrochage scolaire, crise économique, crise aussi climatique. Donc c'est le sujet de cette émission du mois de mars, hein, vous l'aurez bien compris. En 2021, donc, les conséquences continuent de se faire ressentir. Les organisations étudiantes, associations caritatives et professionnelles de la santé tirent aussi la sonnette d'alarme. Alors, pour faire face à ce fléau, les professionnels et les citoyens se mobilisent. Pour en parler, pour cette émission, on reçoit Camille Bory. Vous êtes psychologue clinicienne pour le réseau Santé Sociale Jeune du Libornais. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On reviendra sur la présentation de cette association hein, qui accueille donc des jeunes de 12 à 25 ans dans le milieu plutôt rural, hein, puisque c'est autour de dans la région libournaise.
Oui, le territoire du Grand Libournais.
Le territoire du Grand Libournais. On accueille aussi donc Yann Olivier. Bonsoir à vous. Donc vous êtes étudiant en psychologie et vous représentez ce soir l'association étudiante 11e thèse. Vous donnerez plus de détails sur l'objet de cette association, mais c'est une association étudiante militante qui existait avant la crise sanitaire. Mais là, vous vous mobilisez particulièrement donc sur la question de la précarité étudiante. Vous avez mené il y a quelques semaines une étude hein, sur la situation des étudiants. Et puis vous avez organisé, c'était cette semaine, la journée de la solidarité sur le campus. Et je crois que vous avez distribué à peu près 250 repas pour les étudiants, si Sud-Ouest me dit la vérité.
Oui. Entre 250 et 300, oui, repas.
Voilà, donc 250, 300 selon les organisateurs, c'est voilà. En tout cas, bravo à vous et vous allez nous donner un point de situation, vous, suite notamment à l'étude que vous avez menée, une étude assez importante hein, d'ailleurs. Et puis, vous êtes une organisation militante, vous allez nous parler aussi des mesures prises par le gouvernement, j'imagine. Parce que vous allez nous dire ce que vous en pensez et quels sont certainement les angles morts ou
avec plaisir.
Les manquements. Je sens que ça vous fait plaisir. on souhaitait, pour commencer, On souhaitait pour cette émission déjà ne pas parler que des étudiants, effectivement, c'est parler de l'ensemble des jeunes, puisqu'ils souffrent tous de cette situation. On voulait parler aussi d'un autre territoire, c'est intéressant d'avoir la vision, votre vision, Camille Bory, hein, de ce territoire plutôt rural du Grand Libournais. Pour commencer, vous allez nous rappeler l'émission hein, du réseau santé sociale jeune, qui a été donc créée en 2007, donc une association. Et déjà, quel était l'objet, en fait, de sa création ?
Alors, au départ, l'association, c'est une émanation de la mission locale, en fait, de Libourne, c'est les conseillers de la mission locale, il me semble, qui ont pu constater que ils pouvaient apporter certaines réponses concernant les problématiques d'insertion des jeunes, mais pas toutes les réponses notamment quand il y avait des difficultés psychologiques qui freinaient l'accès à l'insertion, à l'emploi. Donc ça émane de là au départ. Et puis petit à petit, l'association s'est structurée. Enfin, en tout cas, ça s'est structuré et ça s'est détaché de la mission locale pour devenir une association à part entière.
L'équipe, elle est composée de combien de personnes ?
Donc il y a 4 psychologues et un directeur.
Voilà, et donc vous êtes des psychologues qui dépendent, vous êtes salariés par l'association, mais certains sont aussi détachés, il me semble, pour l'association. Ils sont salariés de l'hôpital.
C'est ça, c'est qu'il y a deux temps partiels, donc on est tous à temps partiel. Il y a deux temps partiels qui sont salariés de l'association et deux temps partiels qui sont détachés de l'hôpital de Libourne.
Alors comment ça se passe ? Donc du coup, vous êtes le public que vous recevez, c'est des 11-25 ans ?
Oui, alors on dit c'est à partir de la sixième.
À partir de la sixième. Ouais. Et comment ?
Donc à environ 11 ans à 25 ans, effectivement.
Comment viennent à vous les publics ? Est-ce que c'est justement les acteurs qui décèlent des fois des problématiques ? Ça peut être l'éducation nationale, les enseignants ou peut-être les acteurs de la mission locale qui vous oriente ce public parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une difficulté qui est plutôt de l'ordre psychologique.
Alors effectivement, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs partenaires avec qui on travaille qui peuvent nous orienter des jeunes. Donc la mission locale, l'éducation nationale, tous les services de protection aussi de l'enfance. Et ensuite, il peut y avoir des démarches individuel via notre site, voilà. Donc il y a plusieurs portes d'entrée possibles.
Et quel type de suivi vous menez avec ces jeunes ?
Alors, on s'inscrit dans le champ de la prévention, c'est-à-dire qu'on pense plutôt les accompagnements à court ou moyen terme. Alors, pour autant, on n'a pas de nombre restreint de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on peut proposer autant de rendez-vous que nécessaire. Il n'y a pas de durée restreinte non plus, ça peut durer plusieurs mois si nécessaire. L'idée, c'est qu'on ne s'inscrit pas dans le champ médical du soin. Voilà. S'il y a un besoin d'accompagnement plus spécifique en psychiatrie, là, on oriente vers nos partenaires, principalement l'hôpital de Libourne. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question.
Oui. Est-ce que ces derniers mois, donc, vous avez constaté plus de demandes de la part des jeunes et de ceux qui vous les orientent ou pas ?
Alors oui, après le premier confinement, là où ça a beaucoup augmenté, c'est à la mission locale. Principalement pour des jeunes qui sont hors parcours scolaire, peu diplômés, voilà. Et ça continue effectivement de s'observer. Et à partir du deuxième confinement, la fin octobre, une augmentation un peu globale des demandes. Pas forcément, enfin, on ne peut pas dire que c'est lié directement à ces questions-là, mais ça, c'est probablement un révélateur la situation sanitaire peut être révélatrice de difficultés qui préexistaient, voilà. Mais voilà.
Mais vous n'arrivez pas, vous, à évaluer si c'est directement lié à la crise ou si c'est effectivement, il y avait déjà des difficultés et qui, du coup, ça a été le déclencheur, quoi.
C'est probablement la situation actuelle, comment dire, révèle probablement des difficultés qui préexistaient. Après, effectivement, le fait que les parents puissent avoir perdu leur emploi, être en difficulté économique, ça majore les difficultés de leurs enfants, évidemment. Et après, pour tout ce qui est du public mission locale, qui sont sortis du parcours scolaire, là, évidemment, il y a un lien qu'on voit un peu plus directement avec des inquiétudes sur l'avenir. Voilà, parce que quand on est peu ou pas diplômé, c'est de base assez compliqué. Mais là, là effectivement, y a des questionnements qui se majorent, on va dire.
C'est pas rien quand même de faire une démarche d'aller voir un ou une psychologue. J'imagine que quand on y va, c'est qu'il y a plus peut-être que de l'inquiétude, non, quelque part. Est-ce que on n'a pas, est-ce que ces jeunes, comment ils le voient cet avenir? Est-ce qu'il n'y a pas un horizon bouché quelque part avec cette crise où on a du mal à voir le bout du tunnel, hein, quand même?
Alors, j'ai du mal à faire des généralités, parce que j'ai l'habitude de recevoir voilà, des personnes à chaque fois, que je considère à chaque fois différentes. Mais si je devais essayer, évidemment que, voilà, je vous dis, pour les jeunes qui sont hors parcours scolaire, il y a des questions. Enfin, ces questions-là se posent de manière plus précise qu'avant toute cette situation-là. Mais évidemment qu'ils ne viennent, enfin, que la demande au départ, c'est pas forcément celle-là. Enfin, c'est pas « je suis inquiet pour mon avenir ». Voilà, c'est des manifestations symptomatiques d'angoisse. Voilà, enfin, disons que ça va majorer vraiment cette situation, je pense, sanitaire majeure. L'existence d'autres difficultés, voilà, les situations familiales compliquées voilà, le fait ce que je disais, hein, quand les parents perdent leur emploi ou qu'il y a des difficultés sociales, économiques qui s'aggravent, ça peut ça peut entraîner l'émergence d'autres difficultés chez les enfants, les adolescents.
Comment vous la voyez-vous, est-ce que vous parlez de fragilité à la base, que ce public, finalement, il serait venu à un autre moment, à un autre, mais est-ce que vous avez, le sentiment quand même que vivre ce qu'on a vécu, ça peut aussi être le premier facteur, en fait, aggravant et qui nous demande une consultation. Enfin, vous voyez, ça peut nous... Même en tant qu'adulte, même en travaillant, on a quand même... c'est dur. Enfin, c'est dur pour tout le monde, quoi. Ou alors, est-ce que vous voyez peut-être, chez les jeunes, une capacité, finalement, de résilience? Ils vivent ça comme... voilà, c'est comme ça, et puis on passe à autre chose. Ça ira mieux demain.
Mais alors, je pense que ça se situe un peu entre les deux. Effectivement, chez les adolescents, il y a une capacité, enfin une capacité. La temporalité adolescente, elle n'est pas la même que la temporalité des adultes. Et effectivement, il y a une adaptation, parfois un peu surprenante, à la situation actuelle. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Je suis allée dans un collège l'autre jour, je suis passée par l'infirmerie et il y avait une jeune fille qui faisait une crise d'angoisse et qui était donc dans l'infirmerie et qui était allongée et qui avait conservé son masque alors qu'elle était vraiment pas bien, et l'infirmière lui a indiqué qu'elle pouvait l'enlever puisqu'elle était seule et elle avait oublié qu'elle portait ce truc là voilà, enfin bon, c'est c'est un exemple,
elle était tellement intégrée qu'elle dit, tiens, je peux l'enlever, quoi.
Alors voilà. Donc, bon, après, c'est intéressant que nous, le public, enfin, les professionnels qui recevons ces jeunes-là, on garde à l'esprit que, qu'on continue, nous, de s'étonner de ce port du masque et de, voilà, pour permettre, effectivement, qu'il y ait quelque chose qui se décolle un peu, qu'il y ait un champ un peu d'imaginaire qui continue d'exister. Mais c'est vrai que, oui, il y a pas mal de jeunes pour qui, bon... ces choses-là, on dirait presque pas qu'ils ont toujours vécu avec, mais enfin bon, ils le questionnent peu ou pas tant que ça. Voilà, les questionnements adolescents continuent d'être des questionnements adolescents, avec ou sans masque.
Ouais. c'est peut-être pas les mêmes problématiques qu'on retrouvera après chez les étudiants, hein, qui ont du coup plus d'expérience de la vie d'avant. Et on va en parler d'ici quelques minutes. Juste, vous avez parlé des crises d'angoisse. Il y a quand même, vous voulez pas faire de généralité, certes, je sais bien, et c'est tout à votre honneur. Il y a quand même
Je sais pas, c'est je, pas que je veux pas, c'est que je ne sais pas faire.
Je voulais parler de certains mots qui sont peut-être plus présents à une certaine époque. Je veux dire, les crises d'angoisse, est-ce que c'est pas, des choses de notre époque, justement, et qui vont peut-être s'amplifier? Est-ce que ça a toujours existé, les crises d'angoisse? Est-ce que c'est pas nos sociétés très stressantes, alors, finalement est-ce que c'est pas... C'est pas rien, une crise d'angoisse.
Oui, alors effectivement, alors là, on sort du...
Non, parce que c'est peut-être ce que vous allez... Est-ce que des jeunes viennent consulter, par exemple, pour ce type de pathologie?
Chaque...
Je sais pas si pathologie est le bon terme pour une psychologue, hein, d'ailleurs. Je m'excuse par avance.
Non, mais il y a des... Enfin, chaque époque à son, comment dire, à son expression symptomatique de la souffrance, voilà. Donc effectivement, on est dans une époque où je sais pas, les crises d'angoisse, la phobie scolaire, les scarifications, voilà, les tentatives de suicide, peut-être c'est un peu à la marge, enfin voilà, on va dire ça, ce sont des expressions de la souffrance qui sont, comment dire, communément admises, voilà. Enfin, si vous partez plusieurs siècles en arrière, par exemple, la question des scarifications n'était pas du tout pensée, interprétée, vécue de la même manière qu'elle peut l'être aujourd'hui. C'était pas un symptôme aussi commun, entre guillemets, qu'il l'est aujourd'hui.
Et là, on est dans du mimétisme, alors que la crise d'angoisse, la scarification, non, on n'est pas un peu dans le mimétisme. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, sur le mode, l'opérationnalité du suicide, des tentatives de suicide, on peut copier des choses qui existent. Mais là, la crise d'angoisse, c'est indépendant de la volonté. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire. C'est pas le mode opérationnel que je parle, c'est vraiment la crise d'angoisse, c'est indépendant, non, de la volonté de la personne.
Oui, alors dans une moindre mesure, les scarifications aussi, enfin quelque chose qui dépasse un peu la simple volonté
de se faire mal. Ouais.
Voilà, ça dépasse quand même la simple, la simple volonté. Enfin, il y a un aspect un peu incontrôlable. Enfin bon, après on pourrait rentrer dans les détails.
Non, on va pas le faire. Je vais peut-être aller trop loin déjà.
Voilà, enfin, donc la crise d'angoisse, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Après, là, j'ai eu beaucoup de mal à généraliser. La crise d'angoisse, c'est un terme générique pour parler d'un vécu. Mais par exemple, si je reçois un jeune qui me dit je fais des crises d'angoisse, je vais lui demander qu'est-ce que c'est qu'une crise d'angoisse, parce qu'en fonction de chacun, c'est juste un terme, c'est un terme qui est admis par notre société pour dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé. Mais une crise d'angoisse, elle est... tout le monde ne fait pas la même crise d'angoisse.
Non, bien sûr, ça peut se traduire de manière très différente suivant les personnes, en fait.
Oui.
Bon, on va revenir sur le sujet. C'était juste un aparté. Est-ce que c'est effectivement, vous repérez ce genre de symptômes un peu plus... en période de crise sanitaire, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes... Alors, on va définir une crise d'angoisse. Souvent, c'est difficulté à respirer, la peur de mourir, qui peut se traduire de manière différente, qui peut se voir ou pas se voir. D'ailleurs, certains le dissimulent très bien, d'autres ne sont plus en capacité de marcher. Mais est-ce que ce n'est pas des mots un peu de cette période? Enfin, en tout cas,
Il y a surtout eu, ce qu'on a pu observer, nous, ça a été surtout l'augmentation, on va dire, la raison de consulter était la phobie scolaire, en fait, qui peut être une autre manière de faire une crise d'angoisse, mais voilà, il y a surtout eu ça, où on s'est dit, tiens, ça revient pas mal, cette question-là, de la phobie scolaire, un peu plus que d'habitude, on a eu cette impression-là, surtout à la rentrée, en fait, puisque les jeunes qu'on reçoit, pour beaucoup, ils ont cessé d'aller en cours en février-mars 2020. Ils ont très peu repris en juin. Et puis, voilà, il y a eu septembre et le masque et les restrictions et le deuxième confinement. Enfin, voilà. Et ça, c'est vrai qu'on a eu cette impression-là. Alors, encore une fois, on n'a pas de chiffres précis. Mais,
mais on n'en demande pas. C'est votre ressenti qu'on demande. Ouais.
On a eu cette impression-là. Ah, voilà, je fais vraiment une différence entre les jeunes collégiens, lycéens et les jeunes missions locales. Alors, je dis mission locale, mais bon, ils ne sont pas forcément inscrits à la mission locale, mais en tout cas, en sortie des parcours scolaires.
Je vous remercie en tout cas, Camille Boré. Je sais que vous avez des obligations personnelles qui vous imposent de nous quitter. Ce que je vous propose, Yann, c'est qu'on se retrouve juste après une pause musicale. On va parler d'un autre public, puisque c'est vous allez parler essentiellement des étudiants, c'est le public que vous connaissez. Mmh. Et donc, avec votre association 11e Thèse. Avant, on va écouter une musique. Alors, c'est pas très original par rapport à la thématique. Hein. On va écouter Pierre Bachelet. En 2001, alors on aurait pu dire quand on aura 20 ans, en 2021. Peut-être que Pierre Bachelet en réécrira une. En tout cas, pour le moment, c'est celle-ci qu'on va écouter. À tout de suite.
Je serai vieux demain, quand t'auras tes 20 ans, en l'an 2001. Petit bonhomme, tu viens d'éclore comme un ange humain, tout petit bout d'homme qui tend la main pour faire ses premiers pas. Petit bonhomme, traverser le salon, c'est un peu comme atteindre l'horizon. Petit bonhomme, faut jamais baisser les bras. Et on posera nos pelles à l'heure des repas. On chauffera nos gamelles sur les feux de bois. On fera des survolants pour aller plus loin. On aura 20 ans en l'an 2001. J'aurai bien des tourments, tu n'en sauras rien. Quand t'auras tes 20 ans en l'an 2001. Petit bonhomme, tu veux tout faire comme t'en as envie. Vivre au maximum, brûler ta vie sans savoir où tu vas. Petit bonhomme, partir sans rien savoir, c'est un peu comme marcher dans la nuit noire. Petit bonhomme, et dire que j'ai fait comme toi. On se fera des igloos
on mangera des facs. Et on plantera des clous en plein dans le rack. On n'aura plus de gants, on aura le poing. Quand on aura 20 ans, en l'an 2001. Sur les photographies de ce vieux caillou, 3 milliards de fourmis qui courent après nous. C'est sympa, c'est marrant, mais on s'attend bien. Quand on aura 20 ans, en l'an 2001, on posera nos valises, nos cantines à faire. Sur un bout de banquise, un coin de désert. Et on se lavera les dents avec des refrains. Quand on aura 20 ans, en l'an 2001.
Pierre Bachelet, en l'an 2001, pour parler des jeunes et de la crise Covid, du malaise des jeunes en 2021 cette fois-ci. On était avec Camille Bory, psychologue clinicienne au réseau de santé sociale jeunes du Libournais. Et tout de suite, on retrouve notre prochain invité qui est donc Yann Olivier. Il est étudiant en psychologie, il représente l'association étudiante 11e thèse, excusez-moi, l'association, une association militante mais qui se mobilise aujourd'hui sur la question de la précarité étudiante. Avant de parler de vos actions, on va revenir sur le titre de cette association, le nom de cette association plus exactement, 11e thèse. Alors pourquoi ? Alors vous me l'avez dit en off et je me suis dit que j'allais quand même vous la reposer en on. Allez.
Oui, du coup, 11e thèse, du coup, comme vous avez dit, c'est une association étudiante qui est sur l'Université de Bordeaux, Université de Bordeaux-Montaigne depuis 2 ans. Et donc, du coup, 11e thèse, c'est une référence à Karl Marx et son texte, du coup, les thèses de Feuerbach, et notamment la 11e thèse où, du coup, il finit par dire que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde et il ne tient qu'à nous de le changer. Voilà, très rapidement.
Mais c'est chouette. Je rappelle que si on est avec Johan Daki.fr et Coraline pour l'écho des collines, vous n'hésitez pas à intervenir, surtout vous, Johan, parce que je crois que c'est quand même vous qui avez suivi plus cette question-là. Je vous écoute, Johan.
Oui, alors bon, déjà, 11e thèse, c'était il y a 2 semaines, vous aviez co-signé avec plusieurs autres associations étudiantes une étude sur la vie étudiante de manière générale, mais particulièrement dans cette crise sanitaire. C'est une étude déjà qui portait sur quoi ? J'imagine que c'est pas que sur les conditions sanitaires, mais c'est beaucoup plus large que ça.
Oui, oui, exactement. On a porté avec différentes associations du coup étudiantes une étude qui a été envoyée à tous les étudiants de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui a eu un certain succès avec près de 5000 réponses. Enfin, on était les premiers surpris par ça, mais du coup, ça tenait à la fois sur les conditions de vie dans cette période de crise sanitaire. Est-ce que des étudiants ont été contraints de quitter le logement ? Est-ce qu'ils sont restés tout seuls ? Est-ce qu'ils étaient en colocation ? Après, ça portait aussi sur les difficultés qu'ils ont connues. Leur ressenti par rapport à la période et après, qu'est-ce qu'ils pensent aussi de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Il y avait aussi un moment d'expression libre où on permettait des témoignages, etc.
Vous disiez c'est près de 5000 réponses le campus de Bordeaux-Montaigne. Alors je sais que c'est plus de 10 000 mais j'ai plus le chiffre exact, c'est 15 000.
Ouais.
Vous l'aviez mené uniquement à soi étudiante ou vous avez bénéficié d'un soutien par exemple de Lionel Larré et de la direction de l'Université Bordeaux-Montaigne?
S'il y a eu autant de succès, c'est parce qu'elle a été envoyée sur toutes les 10 étudiantes. Et bon, c'est un peu, peut-être aujourd'hui en tout cas, une revendication qu'on a d'avoir accès tout le temps en fait à ces 10 étudiantes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais du coup, Lionel Larré du coup l'a diffusé pour le coup à tous les étudiants.
Et puis c'est peut-être aussi un symbole de, même s'il est peut-être un peu pieds et poings liés en tant que directeur d'université, de son soutien aussi envers les étudiants, ce qui vous a laissé en fait complètement carte blanche sur cette étude.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, sur cette étude, oui, il nous a laissé carte blanche. Après, on a des désaccords quand même qui sont arrivés par la suite, où notamment nous, on a voulu porter l'une des revendications qui sortait dans le questionnaire et qui est soutenue par près de 67% des étudiants interrogés, 67 ou 63, je ne sais plus exactement, mais plus de 3000 étudiants en tout cas, qui est à savoir la validation automatique avec le 10 améliorable. Et où nous, du coup, avec les autres associations étudiantes, on l'a porté au conseil d'administration pour tout simplement, en fait, bah, qu'elle soit mise en place. Et bon, là, on s'est quand même retrouvé face à Lionel Larrey qui a refusé tout simplement de mettre la motion au vote. Donc bon, on a quand même, même s'il nous a soutenus, on a quand même des différences quoi, aujourd'hui qui s'expriment.
Et justement, il vous a donné une justification sur ce refus en fait de laisser les étudiants, enfin de laisser passer la validation automatique du semestre.
Bah, le problème, c'est que on n'a pas pu rentrer dans les détails parce qu'il a refusé de la soumettre au vote et on est passé à un autre sujet. Mais principalement, l'argument était de dire que les conseils d'administration n'ont pas en fait de pouvoir décisionnaire sur la question de comment va se passer l'année, mais et que c'est les jurys de fin d'année. Après, nous justement, la motion a dit justement de demander au jury, enfin que le CA se positionne et qu'elle demande au jury de prendre en compte la revendication étudiante. Donc bon, ça c'était aussi un peu un point technique. Mais après, bon voilà, bien sûr, il y avait la question de la valeur du diplôme par rapport aux autres universités qui était sortie et même dans le marché du travail quoi. Ce qui pour nous aujourd'hui est une réelle question, tant on peut voir aussi la situation dans laquelle on est, de crise économique qui amène énormément d'incertitudes, où déjà avant la crise sanitaire, bah, beaucoup d'étudiants avec un bac plus 5 mais après finissaient caissiers ou à McDo pendant plusieurs années même sans trouver en fait un emploi à leur qualification, et que la crise économique va renforcer ça.
Vous le disiez, l'étude que vous aviez faite, les plusieurs thèmes, on y apprend notamment que sur tous les étudiants interrogés, dans ceux qui ont répondu en tout cas, il y en a plus d'un quart qui disaient qu'ils étaient seuls dans leur logement sur toute la période de la crise sanitaire, notamment du logement Crous. Justement, je vous propose d'écouter Océane, qui est étudiante à Sciences Po Bordeaux et qui habite au Village 6, donc juste à côté en fait, de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et après, on pourra réagir dessus si vous le voulez bien.
J'habite au Village 6 depuis septembre et en fait, aujourd'hui, je me sens vraiment soulagée de cette action et de voir que les étudiants ont la capacité de sortir de leur isolement et on arrive à les rassembler quand même en nombre. Mais il y a aussi une action alimentaire qui a eu lieu, donc des amis ont organisé d'onzième thèse et d'autres associations comme SOS Racisme. Et ça, c'est plus que primordial parce que en fait, la précarité qui auparavant était économique et vraiment devenu alimentaire. Et il y a des associations comme les étudiants algériens de Bordeaux ou Espoir pour tous à Talence qui se mobilisent chaque semaine, mais actuellement elles ne peuvent pas faire face à ce qui se passe. Nous, au Village 6, on vit avec des cafards, des punaises de lit et des squatteurs drogués dans la cuisine. Donc on s'est mobilisé, on a créé un comité de soutien la semaine dernière pour politiser la chose et visibiliser la situation de ces étudiants majoritairement étrangers, issus du continent africain, donc Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, les anciennes colonies, et qui, eux, n'ont pas de bourse de leur gouvernement, ont perdu leur petit boulot. Pour certains, ils mangent une fois par jour, un repas par jour, ils sont endettés. D'autres ont la chance de travailler, mais ils travaillent la nuit, et ils sont... ils travaillent toute la nuit, voilà. J'ai vraiment honte de ce qui se passe, parce que le Crous, c'est un représentant de l'État, c'est un service dit social qui ne l'est pas, et qui même se permet de maltraiter verbalement les étudiants étrangers. Nos revendications, déjà, c'est de rénover notre logement, parce que c'est pas possible qu'on vive dans l'insalubrité comme ça. Notre revendication, c'est aussi de pouvoir, en fait, de mettre en place un service qui puisse permettre anonyme aux étudiants qui sont logés au Crous de pouvoir dénoncer les abus de pouvoir, parce qu'on a eu beaucoup d'abus de pouvoir, mais les étudiants, si, vu qu'ils sont étrangers, si, témoignent en leur nom, ils peuvent pas bénéficier d'aide. Donc vraiment un service de juridique lié aux discriminations. Et là, je viens de parler avec le président d'SOS Racisme qui va mettre en place des testings et des enquêtes sur le Village 6.
Justement, je vous ai vu tous un petit peu réagir sur les propos d'Océane. Je ne sais pas si vous avez une réaction, parce que je crois que 11e thèse s'est mobilisée, entre autres associations, sur le Village 6 notamment.
Oui, c'est, en fait, on a lancé avec 11e thèse il y a 3 semaines des comités de lutte contre la précarité dans les universités, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. Et à partir de là, du coup, on s'est directement tourné vers les cités universitaires parce que c'est justement là où les étudiants les plus précaires se trouvent. Comme le disait l'audio, enfin, Océane, du coup, des étudiants aussi étrangers qui, bon, déjà, pour venir en France, c'est très compliqué parce qu'il faut payer Campus France et que c'est des démarches administratives à tout va. Et qu'ensuite, une fois arrivé en France, il n'y a pas de bourse. Dans les cités universitaires qui sont très insalubres. Par exemple, au village 6, enfin, les habitants eux-mêmes l'appellent Cafarland. Bon, je pense que ça évoque son nom. Encore tout à l'heure, j'ai reçu une image où on voit en fait une dizaine de cafards dans une habitation. Il y a des punaises de lit. Les parties communes, on va dire aussi, sont très exiguës parce qu'ils ont une cuisine par étage où ils sont 70 à peu près par étage, où il y a seulement 4 feux, encore quand les 4 y marchent. Donc c'est très, quand même très compliqué en termes de conditions de vie, et notamment qu'il faut voir que ces étudiants étrangers, et même des étudiants qui sont de France aussi, ont passé les confinements dans 9 mètres carrés, dans ces conditions de vie, et en fait ne sortaient pas, ne voyaient personne, n'allaient même pas à l'université qui était à 100 mètres. Donc c'est ce qui a fait que c'est pour ça qu'on s'est tourné directement en fait vers les cités universitaires pour essayer déjà de rencontrer les habitants et essayer de voir avec eux comment on peut organiser quelque chose. Et c'est ce qui aboutit aujourd'hui au village 6, où ils se réunissent du coup maintenant en assemblée générale, où ils ont du coup fait émerger un comité de lutte contre la précarité qui s'organise à la fois sur la question de la solidarité, où notamment à partir de la semaine prochaine il y aura des distributions alimentaires auto-organisées par les habitants eux-mêmes sur la cité universitaire, qui s'occupe aussi d'animer le village. Hier ils ont fait une première soirée un peu jeux société, etc. Ils vont sûrement faire aussi des cinémas en plein air, enfin, avec bien sûr voir comment on peut concilier ça avec les conditions sanitaires, mais en tout cas essayer d'animer ça. Et ensuite aussi plus aussi un volet, comme le dit Océane, politique, avec notamment la journée du 9 où ils sont apparus, il y avait des banderoles et des prises de parole du village 6. Il y a le 16 mars qui est une date là qui arrive de mobilisation nationale des étudiants aussi, où le village 6 va essayer d'apparaître et va appeler tous les autres cités universitaires, les autres départements d'université à s'organiser pour cette date. Et voilà, en fait, aussi réussir à s'organiser pour avec les revendications que veut porter le village par rapport à leurs conditions très matérielles d'existence. Mais aussi, voilà, en assemblée générale, il parlait de la question du loyer qui était très compliquée avec la pression du CROUS. Donc voilà, il y a des revendications comme aussi un moratoire sur les loyers, bon, aussi la rénovation des lieux, la question du revenu étudiant aussi qui revient pas mal. Des revendications qui vont au-delà même de ce qu'on peut dire, parler de la validation automatique qui est un peu pour nous en fait une mesure d'urgence aujourd'hui, mais qu'elle ne réglera en rien la situation, quoi. Ouais.
Justement, on va rester un peu sur cette journée du 9 mars, donc de mardi, puisque c'était une grande journée de solidarité, donc qui commençait en fin de matinée, début d'après-midi, où c'était donc avant tout un déjeuner, enfin un repas solidaire, où il y avait des distributions alimentaires, où vous faisiez partie des organisateurs notamment. Alors c'était quoi déjà le but de cette journée, outre la distribution, la solidarité, se retrouver? Je crois qu'il y avait des concerts aussi, mais ça allait plus loin que la dimension étudiante, si je me souviens bien. Et est-ce que vous, justement, pouvez raconter comment ça s'est passé, comment ça a été perçu et ce que ça va être la suite?
Pour nous, l'objectif, c'était à la fois de faire un repas solidaire et c'était d'en faire aussi un moment convivial et chaleureux, on peut dire aussi. On arrive à rompre avec l'isolement social et à pas seulement en fait aussi ne faire que des distributions alimentaires. Bon, on prend son panier, on retourne dans son appartement et voilà. Là, on voulait faire un repas aussi plus convivial par rapport à ça et surtout visibiliser en fait cette précarité. C'est pour ça qu'on a fait ça sur le parvis de l'université et qu'on a appelé aussi un maximum d'organisations étudiantes à signer l'appel, mais aussi des organisations antiracistes comme SOS Racistes, du coup, qui étaient présents, et des syndicats où ouvriers qui en fait eux aussi aujourd'hui dans la période sont menacés par la précarité, et qui, bon, c'est parti du fait qu'aussi eux nous ont sollicité pour dire que si on fait quelque chose on peut les appeler, ils viendraient nous soutenir, et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est que pour nous-mêmes c'était plus important dans la période actuelle de dire que la question de la précarité certes elle touche la jeunesse, mais elle touche aussi le monde du travail, et que même pour nous en tant que jeunes, où voilà, après nos études, bon, il faut forcément trouver un travail, la question elle n'est pas du tout déliée, et que c'était important d'inviter le monde ouvrier et de aussi leur dire qu'ils allaient être, qu'on sera à leur côté dans leur lutte aussi pour contre les suppressions d'emplois, parce que pour nous ça va être notre chômage de demain aussi, et inversement. Enfin voilà.
Concrètement, comment les syndicats vous ont aidé à organiser cette journée, même par exemple pour les distributions alimentaires, vous avez pu vous fournir à la banque alimentaire, comment ça s'est passé?
Oui, on a réussi avec la Banque Alimentaire, avec le réseau aussi d'associations qui nous a beaucoup de dons en fait aussi, de réseaux d'associations qui nous ont donné en fait de la nourriture, de quoi faire en même temps que du repas, une sorte d'épicerie solidaire un peu pour que les étudiants repartent chez eux avec quelque chose à manger. Et du coup, après oui, le soutien des organisations syndicales, c'est surtout relayer l'appel. Ils ont prêté du matos aussi un peu, enfin voilà.
Cette précarité des étudiants, elle a été amplifiée avec la crise, elle est visibilisée ou elle existait déjà avant, ou est-ce qu'elle a été amplifiée avec cette crise?
Elle existait déjà avant, ça c'est une certitude. Enfin, bon, même avant la crise, près d'un étudiant sur deux était obligé d'avoir un travail en fait pour subvenir à ses besoins, et que la crise sanitaire est un peu arrivée comme un élément aggravant en fait qui a accéléré ce processus de précarisation qui était déjà en place avant, avec notamment le fait que bon, ben, en tant qu'étudiant, on a les contrats les plus précaires, les contrats les plus souples, parfois on travaille au black, et que tous ces emplois, ça a été les premiers qui ont sauté en fait avec le premier confinement, ce qui fait que beaucoup d'étudiants en fait ont perdu des revenus. Enfin, même sur l'enquête, on voit où il y a sur du coup 4000, c'est près de plus de 300 étudiants qui disent avoir perdu leur job depuis le début de la crise sanitaire, et 15%, donc près de 700 étudiants qui disent devoir faire plus d'heures en fait aussi, ou plus de taf pour pouvoir remplir leur frigo, pouvoir payer leur loyer. Et donc oui, la crise sanitaire a joué un rôle d'aggravation d'un processus qui existait déjà avant.
Est-ce que on avait donc tout à l'heure Camille Bourri, qui est donc psychologue clinicienne, mais plutôt elle avec un public adolescent de 11 à 25 ans, mais elle a beaucoup parlé du public adolescent. Elle a parlé d'une capacité de résilience. Finalement, bon, il y a une augmentation, mais c'est pas si flagrant que ça. Est-ce que vous, de votre côté, d'un point de vue psychologique, comment vous les sentez, les étudiants? Alors même si vous êtes, vous n'avez pas d'études là-dessus. Enfin quoi que vous en parlez, hein, quand même. Ouais, vous en parlez. Dans quel état psychologique sont les étudiants?
C'est un état qui est très compliqué quand même, et où bon, pour le coup, je pense que c'est plus simple aussi de généraliser un peu, vu que bon, en fait, on connaît tous la même situation. Après, je pense que ça dépend aussi des situations en fait matérielles des étudiants. Il y a des étudiants qui ont bien vécu la période parce que bon, ben, les cours en ligne ça les gênait pas, et qu'ils avaient aussi un espace qui leur permettait d'avoir des bonnes conditions d'études, etc.
Mais par leurs parents, j'imagine, oui, aussi, quand même, ils sont pas tous précaires, quoi. Enfin, oui, voilà, ça dépend lesquels, quoi.
Et voilà, et donc les situations sont forcément différentes, mais quand même, dans la majorité des cas, la situation psychologique est très compliquée. D'une part, la précarité amène forcément des difficultés psychologiques, d'angoisse, de stress, et d'une autre part aussi, moi je pense que ça a souligné le fait que la pression universitaire ne s'est pas relâchée en fait en ces temps de crise, où au premier confinement il y a eu peut-être quelques adaptements très légers, mais en tout cas à partir de l'année universitaire qui a commencé en septembre là, la pression universitaire a été très très forte, et c'est ça aussi qui a mis beaucoup les étudiants en difficulté. Et notamment, enfin, dans l'enquête, il y a quand même 50% des étudiants qui disent avoir envisager d'abandonner les études, 75% qui appréhendent très fortement le second semestre, et près de 80% qui en fait disent ne plus avoir de motivation en fait à étudier. Et même, je pense, on peut même prendre ce chiffre, c'est 7%, donc 347 personnes étudiants qui se disent en burn-out. Moi, je pense que c'est à la fois les conditions précaires forcément qui ont amené à cette situation, la pression universitaire qui s'est pas relâchée. Enfin, par exemple, pour dire à l'université de Bordeaux en psychologie, on n'avait pas mis les pieds à la fac pendant 2 mois, et on a fait les partiels en présentiel avec une forte pression.
Mais c'est ça, quand vous dites pression universitaire, c'est-à-dire que le travail à fournir, la demande des profs et donc les partiels, etc., sont restés les mêmes, quoi, distanciels ou pas.
On était les mêmes, et même parfois on augmentait. Parce que, bon, notamment, moi en tout cas, je parle pour ce que je connais en psychologie à l'université de Bordeaux, la pression universitaire est très forte, et en fait, on voit clairement que ce qui va avoir lieu, c'est une forte sélection sociale en fait, tout simplement, où on voit déjà, il y avait déjà une crise de l'université avant, dans le sens qu'il y avait trop d'étudiants par rapport au débouché.
Oui, c'est vrai que la psycho, c'est connu pour être une filière assez...
C'est ça. Et que cette crise sanitaire en fait aussi, un peu, elle sert d'aubaine quoi aussi pour la renforcer, et ça se voit très clairement en fait dans les choix que fait l'université.
Je voulais revenir un petit peu sur la situation psychologique des étudiants. Vous aviez évoqué le chiffre, 7% des étudiants se disent à la limite du burn-out. Il y en avait aussi un autre où 15% disent qu'ils sont prêts à décrocher, en fait, parce qu'ils n'en peuvent plus. Je vous propose d'en écouter un qui s'appelle Mawalen. Donc, le premier confinement, il était en Erasmus, il était en échange au Chili. Donc, il a moins senti le premier confinement. Il est arrivé l'été et voilà, il me disait, il est chez ses parents, c'est plus facile pour lui, mais on l'écoute quand même.
Moi, en ce moment, je me sens assez mal. Du coup, j'ai commencé à avoir un psychiatre depuis le début du confinement en octobre, parce que j'avais pas réussi à gérer la transition, en fait, simplement de voir les facs, de voir les amis et d'être enfermé constamment. En fait, voilà, c'est Boris Cyrulnik, qui est un psychanalyste, qui disait que il n'y avait rien de pire que l'enfermement psychologique. C'était comparable pour certains, en gardant les proportions gardées, mais à un enfermement proche voilà, des prisons, même pour gens qui ont. Mes grands-parents sont dans un EHPAD, où c'est un peu le parloir, mais non, on a le droit à aller voir en quart d'heure, c'est dans des conditions très précaires, avec une vitre devant nous, ou quelqu'un qui nous donne le chrono, donc voilà, c'est très en ambiance très carcérale, en fait. Et donc, ça, c'est compliqué, et puis là, ça fait du bien le coup de se réunir, de voir un peu de gens, mais le problème, c'est que, voilà, encore une fois, le gouvernement a dit qu'il mettrait plus de psychologues et doubler l'effectif. Mais quand il y a un psychologue pour 5 000 étudiants, qu'il y en ait deux, ça change rien. Et puis, voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui n'est pas forcément dit, c'est que les psychologues étudiants, c'est des rendez-vous qu'on peut avoir en urgence, il n'y a pas de suivi. Donc, parler une fois, c'est très bien, mais il n'y a pas de suivi. Et ouais, mais le principal problème, c'est que déjà, il faut attendre parfois des mois avant d'avoir un rendez-vous. Et voilà, et le rendez-vous, on parle pendant une demi-heure, on dit au revoir, bon courage et à jamais, quoi, parce qu'il n'y a pas de temps pour les suivis, et c'est logique aussi.
Et je l'ai aussi interrogé sur plusieurs des annonces qui avaient été faites par le gouvernement. Bon, Gabriel Attal, qui était en visite à Bordeaux au mois de janvier, avait dit qu'ils allaient renforcer les effectifs de psychologues, notamment dans les établissements universitaires. Parce qu'à Bordeaux Montaigne, je crois que c'est 2 ou 3 psychologues pour 15 000 étudiants, quasiment. Et donc, il y a eu cette première annonce-là, et une autre annonce qui avait été faite, c'était la mise en place d'un chèque psy. Donc, en gros, la prise en charge de 3 séances de psychologue. On écoute Mao Alen et puis après, on va vous faire réagir dessus. Okay.
Pour moi, il y a plusieurs problèmes. Le problème, déjà, c'est que cette mesure a été servie un peu comme bouclier pour montrer que ça intéressait aux étudiants. Alors que c'est pas du tout la première mesure, ni ce qu'on demande, c'est pas du tout la première chose à faire pour eux. Et ça a été mis en laisse-brouf, en mode voilà, on s'occupe de vous. Donc là, c'est le premier problème, c'est le coût médiatique à travers ça. Ensuite, effectivement, ça, c'est pas suffisant parce que payer 2, 3 séances, ce qui veut dire à peine l'introduction avec le psychologue, voir un peu où on est, où on va aller, pourquoi on est mal aujourd'hui, c'est encore pire à rien dire parce qu'on va prendre contact, commencer à avoir une relation avec un psychologue pour ensuite plus l'avoir. Donc c'est finalement pire, vaut mieux ne pas l'avoir, essayer de trouver la solution que de commencer une solution sans pour internet en sachant qu'elle était bien mais qu'on peut pas la faire. Donc il y aura un côté encore plus démoralisant derrière. Et puis par ailleurs, c'est aussi compliqué d'accès.
Et voilà, ce que disait Mao Alen, c'est que 3 séances, ça suffit pas. Et puis en plus, si derrière, on n'a aucun suivi, c'est quelque chose qui sert à rien. C'est un constat que vous partagez, vous ?
Oui, tout à fait. Et même, je rajouterais qu'en plus, déjà, je pense qu'il faut voir d'où partait. Quand Vidal aussi parle de doubler les effectifs de psychologues dans les universités, il faut voir d'où on part. C'est-à-dire qu'en décembre, les études ont recensé en moyenne un psychologue pour 30 000 étudiants dans les universités en France. Donc bon, le doubler, c'est 2 pour 30 000, ce qui en soi n'est pas forcément...
C'est ce que disait justement Lionel Larré, c'est qu'il disait, nous, si vous doublez nos effectifs, c'est bien, mais on sera quand même toujours pas assez nombreux. Et lui, directeur d'université, donc il sait qu'il n'a pas les moyens, mais en même temps, on ne lui en donne pas.
Oui, il en faudrait 10, 15,
Et encore.
Oui, c'est ça. Donc le problème, c'est que cette situation matérielle, elle prend très compliquée. La mise en place de ces 3 chèques psy, moi, je rajoute à Mao Alen, en plus du fait que psychologiquement même c'est un peu absurde juste 3 séances, mais quand en plus de fait c'est un peu une mesure fantôme aujourd'hui où pour avoir ces 3 chèques psy il faut passer chez le médecin généraliste, faire une ordonnance, et qu'ensuite il n'y a pas tous les psychologues qui participent à ce système, ce qui fait que bon, avant d'avoir un rendez-vous parfois il faut attendre jusqu'à 6 semaines notamment à l'université. Donc bon, c'est que c'est aussi un peu une mesure fantôme qui n'a pas vraiment de réalité, quoi. En plus de, je voulais rajouter ça en plus que Mao Alen disait, voilà.
Oui, je ne sais pas si on continue d'intervenir. Il y a eu plusieurs mesures aussi d'annoncer. Hein, la restauration pour les boursiers depuis septembre 2020, c'est à 1 euro. C'est maintenant pour l'ensemble des étudiants. C'est une mesure importante. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'était nécessaire?
Moi, je pense que forcément, ça peut soulager quelques étudiants à certains moments, mais que encore une fois, je pense qu'il faut voir que dans la réalisation, il y a toujours une différence avec ce qui est dit. Déjà, c'est pas tous les CROUS. Enfin, de fait, les CROUS ne sont pas tous ouverts aujourd'hui, donc ce n'est pas tous qui font ça. Et que très concrètement, par exemple, dans les CROUS de Bordeaux aujourd'hui, au centre-ville, dans le Capucin, avant, on avait le choix entre 4 plats, plein d'entrées et tout. Et maintenant, en fait, c'est juste un repas unique. On n'a pas le choix, avec des petites portions dans des petites boîtes. On peut voir aussi, je sais pas, on a vu dans les universités de Toulouse où à 13h en fait, il y avait plus de nourriture parce que ils avaient écoulé les stocks. Donc bon, moi je pense que même si ça peut soulager certains étudiants, je pense aussi le CROUS peut se permettre de faire cette mesure aujourd'hui parce qu'il y a moins d'étudiants qui sont dans le centre-ville, qui sont dans les campus universitaires, et que donc bon, finalement, je pense qu'ils sont pas tellement perdants, on va dire aussi financièrement dans cette affaire, qu'on voit en plus même très quantitativement au niveau de la nourriture, il y a beaucoup moins de quantité, etc., etc. Donc je pense que ça a servi un peu comme les trois chèques aussi, un peu d'étendard du gouvernement pour montrer qu'il se préoccupait des étudiants, mais que encore une fois, c'est loin, très très loin d'être suffisant.
Justement, là, on vous entend, pour vous, donc c'est un peu des mesurettes. Avec donc votre association, 11e thèse, qu'est-ce que vous voudriez, en fait, quelles mesures, selon vous, vous attendriez ou il faudrait prendre?
Bah oui, enfin, pour nous, c'est totalement démesuré, ça, c'est vraiment, et surtout,
mais
je pense
à la hauteur, apparemment.
Ouais, et en plus, c'est vraiment, enfin, la sensation de nous donner des miettes, en fait. Mmh. Alors qu'à côté, en plus, bon, la planche à billets, on va dire, les milliards, ils les ont mis dans les grandes entreprises, etc. Enfin, le plan de relance, ça, là, ils ont mis l'argent, et que bon, pour nous aussi, il faudrait mettre cet argent, en premier lieu dans les services publics, que ce soit les services publics comme les hôpitaux, mais aussi les universités, en fait, tout simplement, parce qu'il y a un manque de moyens qui est criant, et qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir plus de profs, il y a besoin d'avoir plus de ça. Il y a besoin d'avoir des titularisations pour aussi permettre d'en finir avec le distanciel qui a amplifié en fait aussi la détresse des étudiants. Et bon, du coup, voilà, c'est aussi une réouverture des universités avec l'augmentation des moyens. Bon, je pense de manière très immédiate, comme j'ai pas dit tout à l'heure, en mesure d'urgence, je pense qu'il y a la validation automatique avec 10 améliorables, mais que ça, si on l'associe pas avec des revendications qui tournent autour d'un revenu étudiant aussi à la hauteur du SMIC, etc., je pense que c'est tout à fait aussi insuffisant, et que voilà, c'est pour ça que nous on revendique notamment le salaire étudiant, et tout ça, que ce soit les moyens dans les services publics et aussi le revenu étudiant, aussi financé par ceux qui n'ont pas connu la crise, quoi, en fait, par ceux qui ont continué à s'engraisser avec un impôt sur les grandes fortunes. Et à ça, nous on pense, et c'est dans la logique de la journée du 9 où on a fait avec les syndicats, c'est d'allier avec des revendications comme l'interdiction des licenciements et qui sont en lien en fait avec aussi le secteur ouvrier, parce qu'on pense qu'on ne peut pas délier la cause étudiante avec ce qui nous attend demain, c'est-à-dire le marché du travail, etc., etc.
Par contre, je reviens juste rapidement sur la validation automatique des années, enfin des diplômes. Est-ce qu'éventuellement, parce que le salaire étudiant, on comprend mieux l'intérêt immédiat quoi, par rapport à la précarité, mais la validation automatique, est-ce que ce ne serait pas reculer pour mieux sauter? Parce que, enfin, en gros, vous voyez, ce que je veux dire, oui, c'est oui. Que plus tard, voilà, sur le marché du travail, je sais pas, on sait que vous avez votre diplôme en telle année, tout le monde se dit, oui, bon, bah d'accord, c'était l'année où, entre guillemets, on l'a un peu donné à tout le monde, quoi.
Moi, je pense, d'une part, si on demande ça en mesure d'urgence, c'est parce que ça répond très concrètement à une nécessité aujourd'hui où maintenir la sélection, ça va être aussi, en fait, faire en sorte que les franges les plus précaires des étudiants qui sont dans l'université aujourd'hui vont tout simplement, en fait, se retrouver exclus des universités. Parce que pour beaucoup, même, qui ont des bourses, moi, il y a la bourse en mérine, donc c'est-à-dire que si on n'a pas son année, qu'on redouble trop de fois, on perd sa bourse, donc c'est aussi une nécessité en fait pour ne pas qu'il y ait des vagues d'étudiants qui se retrouvent hors des universités et sans diplôme face à un marché du travail qui se casse la gueule aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a cette nécessité là très concrète aujourd'hui pour éviter en fait un écrémage social, mais qu'après d'une autre part je pense qu'aujourd'hui, sélection ou pas sélection, le diplôme n'a pas de valeur quoi aujourd'hui, quand on voit la crise économique qui arrive, c'était déjà le cas avant, mais que bon, maintenant, c'est vraiment amplifié avec la crise économique. Mais voilà, on voit le nombre de cas où des étudiants qui ont un bac plus 5, mais qui sont à McDo, qui sont caissiers, qui sont caissières. Enfin bref, je pense que c'est que même avec la sélection, qu'on maintient la sélection aujourd'hui, je pense que même le diplôme n'a que peu de valeur, quoi, en fait, tout simplement, de fait aujourd'hui. Et qu'en plus de cela, nous, on pense que dans toute la perspective aussi de ce qu'a vécu la jeunesse aussi avant la crise sanitaire, qui est la crise écologique, on a besoin, en fait, de repenser aussi notre société et que. Pour nous, on pense que la société dans laquelle on doit aller, ce n'est pas une société qui sélectionne au mérite, etc. Donc c'est aussi, si on dit ça, c'est aussi pour une remise en cause dans quelle société en fait on vit et qui nous mène en fait à la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Pour vous là, la suite des événements, c'est quoi? Vous aviez donné plusieurs dates quand vous avez commencé à parler. Je crois que vous avez parlé du 16 mars. Je sais qu'il y a aussi quelque chose qui se prépare pour la semaine du 20 mars, donc semaine des nouvelles, des annonces entre guillemets du gouvernement à destination des étudiants. Là, pour vous, après cette journée du 9 mars de solidarité, déjà est-ce qu'elle va être reconduite? Et après le reste, pour vous, la suite, c'est quoi?
Bah, je pense que la suite, c'est continuer tout le travail qu'on a fait dans les cités universitaires, de réussir aussi à s'organiser dans nos lieux de vie et dans nos longitudes pour nous faire entendre, en fait, tout simplement, et de renforcer ce qu'on a commencé à poser avec le comité contre la précarité, et je rajoute un peu juste une parenthèse, qui est en lien, bien sûr, mais avec votre question tout à l'heure, c'est qu'on pense aussi qu'en plus, notre combat, il doit être aux côtés des travailleurs et des travailleuses. C'est pour ça que aussi les comités sont ouverts à plus que les étudiants, et que même les comités, on les pense aussi comme des soutiens à toutes les luttes qui vont avoir lieu dans les mois à venir, que ce soit dans le milieu ouvrier, que ce soit dans le monde de la culture, que ce soit les restaurateurs. Et donc voilà, nous, je pense qu'on va continuer en fait ce travail d'essayer de faire émerger ces comités de lutte contre la précarité. Vous avez parlé du 20, du coup, qui est une date pour les AED, il me semble. Et donc oui, forcément aussi, bon, déjà énormément d'AED sont des étudiants, sont... Et donc, ils sont aussi des étudiants de la jeunesse, donc je pense qu'on sera forcément avec eux à leur côté. Et après, du coup, il y a la manifestation nationale du 16 mars, qui est une journée du coup étudiante, et où du coup il y a un appel aussi à manifester à Bordeaux qui est sorti.
Okay. Très bien, merci. J'espère. Est-ce que vous avez repris les cours juste en présentiel ?
Très peu. Moi, j'ai eu depuis novembre que deux cours en présentiel, du coup, ont aidé. Ouais. Et enfin, voilà. C'est une fois toutes les deux semaines.
Une fois toutes les deux semaines. Oui, voilà, on a parlé, effectivement, on a peu évoqué, on n'a plus le temps d'en parler, mais c'est tout tourne autour de ça, c'est l'égalité des chances à l'université. Hein. Voilà. Mais on a. Donc ça, c'est un thème qui est important, effectivement. Vous, votre militantisme fait que vous mettez des propositions sur du long terme. Il y a une situation d'urgence à traiter, des mesures qui ne vous semblent pas nécessaires, bien entendu. Et en même temps, une autre vision aussi de cette égalité des chances, de permettre à tous d'avoir les mêmes chances à l'université. Et on sait que d'à partir du moment où on est obligé de travailler déjà pour en même temps que ses études... le taux de réussite est moins, voilà, est moins important.
Cette égalité des chances.
Et il y a aussi cette problématique aujourd'hui de la crise et cette perte de lien social. C'est quand même dramatique, même quand on n'est pas dans la précarité, de cette perte de lien social, de faire que des cours en visio. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite. J'espère. À tous les jeunes qui nous écoutent, à tous les jeunes, à tous les parents aussi, parce que moi, de mon côté, je suis aussi mère de famille, un meilleur avenir pour cette jeunesse. Et en même temps, je suis confiante quand on vous écoute, quand on écoute les jeunes qu'on reçoit régulièrement ici.
Ils sont quand même engagés, éveillés, conscients de ce qui se passe.
Et apparemment, c'est déjà bien.
Et tirer à profit cette crise, en fait, d'en tirer, en tout cas... les conséquences pour agir autrement. En tout cas, merci à vous. On remercie aussi Camille Boury, qui était avec nous en première partie de cette émission, psychologue clinicienne au réseau santé sociale jeune. Yann Olivier, donc vous êtes étudiant en psychologie et vous représentez ce soir l'association étudiante 11e thèse.
Et j'en profite pour remercier Océane et Mawalen qui ont répondu à mes questions mardi pendant la journée de solidarité.
Et j'en profite pour vous remercier Johan Dénéchaud d'Aki.fr et Coraline Bertrand de l'Écho des Collines. Et merci à Nicolas pour la régie technique. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau 4 médias. Je le rappelle, on est rediffusé lundi à 16h, mercredi 9h. Vous nous retrouvez en podcast sur notre site www.audioradio.fr, onglet questions d'actualité et onglet 4 médias. Très bonne écoute sur Audioradio.